Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être peut-on fermer pour ne pas déranger les voisins derrière. Merci. Alors, j'ai l'habitude de reprendre un tout petit peu ce qu'on a fait la dernière fois, très rapidement, l'essentiel, pour qu'ensuite vous puissiez plus facilement suivre l'argumentation qui fait un ensemble. Alors, dans cette première approche, l'introduction, j'ai souligné d'abord, je dirais, une difficulté de fond à proposer aujourd'hui une anthropologie qualifiée de théologique. C'est l'adjectif qui pose problème. Une anthropologie théologique. Et pourquoi ? Parce que nous faisons tous l'expérience de cela, au moins dans la plupart des sociétés occidentales, apparemment, l'homme peut devenir aujourd'hui humain sans Dieu. Donc ça, c'est notre point de départ. Alors, faire intervenir dans une telle situation la relation de l'homme à Dieu, ce que j'ai appelé la relation coram Deo, l'homme devant Dieu, dans l'anthropologie contemporaine, va particulariser notre anthropologie chrétienne. Alors, elle a, depuis le début, une prétention à l'universel, ce qui est tout à fait fondamental. Donc, une particularisation. Et c'est le problème qu'il faudra affronter dans ce cours, comment montrer que la relation coram Deo transforme, recompose vraiment toute la relationnalité humaine. J'avais parlé d'une anthropologie, d'une ontologie relationnelle. Et comment, d'une certaine manière, le théologique, le théologal même, humanise l'être humain en l'universalisant. Voilà, c'était un peu mon point de départ. Donc, vous rappelez, on peut regarder les pages. Donc, la fin de cette toute première introduction, donc à la page 8-9. Et donc, première décision de partir effectivement, de prendre la situation telle qu'elle est, non sans dire qu'elle est complexe et difficile, et de partir de la particularité de la foi chrétienne et ecclésiale. Et donc, c'est le premier chapitre, la place de l'homme dans la confession de foi de l'Église. Quelle est la place de l'homme dans la confession de foi? Ou d'une manière, je dirais, presque plus précise encore, quelle est la place de l'anthropologie dans une dogmatique en fonction, construite, entre guillemets, composée, proposée en fonction du symbole de 381, donc que je propose pour le moment comme texte, comme point de départ, tout en ayant déjà fait référence à l'arrière-plan extrêmement riche de nos écritures, et on va y revenir en détail dans les trois parties du cours, bien évidemment. Mais c'est un point de départ. Voilà, et donc ça, c'était l'enjeu, je dirais, du premier chapitre, tout en ajoutant, déjà à la page 11, à la fin du premier chapitre, qu'il faut bien prendre en considération qu'il y a deux versants, deux perspectives dans l'anthropologie théologique. Donc, une première que j'avais formulée, vous avez des formules à la page 11, positionnement de l'anthropologie théologique à l'intérieur du mystère chrétien, donc avec le symbole, et l'inversion de la formulation, le positionnement de l'anthropologie théologique à l'intérieur de l'histoire culturelle de l'humanité. Donc la perspective externe, si vous voulez. Et c'est là où va émerger, évidemment, le versant universel de l'anthropologie théologique. Si on ne veut pas développer ce qu'on pourrait appeler une anthropologie théologique insulaire, c'est-à-dire qui regarde seulement elle-même, je dirais, l'intérieur des textes de confession comme le credo de Nicée-Constantinople et ses reprises. Et l'écriture, il faut tenir compte aussi de la perspective interne, qui est aujourd'hui donc une perspective culturelle. Et j'avais souligné deux points, deux difficultés dans ce premier chapitre. D'abord, évidemment, au centre de la confession de foi et au centre de l'anthropologie théologique, il y a le deuxième article, l'article central, la relation entre le Christ et tout être humain. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel, il s'est fait chair, etc., etc. Donc là, il y a le centre, mais il y a en même temps, évidemment, aussi un certain risque d'un christocentrisme, même à l'intérieur de l'anthropologie théologique. Il faut prendre en compte la relationalité, l'organicité, c'est le terme que j'avais introduit, vous rappelez, de l'ensemble du mystère chrétien, donc considérer aussi les autres articles. Donc le retour, évidemment, aux origines, la création, et avec le troisième article, l'itinéraire de l'homme vers l'accomplissement, l'itinéraire effectué dans l'Esprit Saint. Voilà, donc ce qu'on pourrait appeler une anthropologie pneumatologique. Voilà. Donc ça, c'est déjà, si vous voulez, la grande architecture du cours, c'est-à-dire les trois parties. Voilà un premier problème que j'avais souligné la dernière fois. Donc, bien souligner le lien entre anthropologie et christologie, donc la doctrine de la rédemption, la sotériologie, mais en même temps de maintenir l'ensemble du mystère chrétien dans toute sa profondeur, comme un itinéraire historique. Alors, l'autre problème souligné, c'est les termes. En christologie, c'est net, c'est le roman Ousios qui est une manière, au fond, d'introduire à partir du IVe siècle, on pourrait dire, de la philosophie dans la confession même de foi, de même nature que le Père, laissons cette traduction pour elle, avec tous les problèmes que ça pose. Mais il y a d'autres thèmes, n'est-ce pas, ou termes, notamment le terme bios, vie, tout à fait central, et que c'est un terme évidemment historiquement situé, bien sûr, je dirais, selon telle ou telle vision du monde. Bios ne veut pas dire la même chose dans la culture occidentale d'aujourd'hui, vie, et dans une culture africaine, ou je dirais dans le IVe siècle, etc. Donc il y a une historicité, et cette historicité interne implique d'ailleurs, explique d'ailleurs pourquoi il y a toujours développement doctrinal. Les différentes étapes, le 4e, 5e siècle, le 16e siècle et finalement le 20e siècle avec Gaudium et Spes et ses suites. Voilà. Il y a une interprétation. Et donc si je parlerai maintenant aujourd'hui, surtout dans le chapitre 2 et le chapitre 3, de la perspective externe, c'est-à-dire des difficultés à accéder finalement au mystère chrétien de l'homme, c'est au nom même du mystère chrétien que je le fais, parce que c'est un mystère historique, inscrit dans l'histoire. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi cette problématique centrale qui va traverser évidemment l'ensemble de notre parcours. C'était mon objectif la dernière fois de vous y initier. Alors, les chapitres 2 et les chapitres 3 prennent maintenant cette perspective externe, progressivement, mais à partir de l'interne d'abord. Donc la difficile reconnaissance de la proposition chrétienne du salut par l'homme moderne et contemporain. Donc j'imagine un être humain moderne, c'est un peu une fiction, mais bien fondée, et qui frappe à la porte, une sorte de catéchumène, et qui veut accéder à la vision chrétienne de l'homme et les difficultés qui se lèvent devant lui. Donc ça, c'est le chapitre 2. Évidemment, il faut l'inscrire, ça sera le chapitre 3. Cette réflexion que je vous propose à la page 17, il faut l'inscrire dans, je dirais, la difficile scission, distinction dans laquelle nous vivons aujourd'hui, l'anthropologie théologique et l'anthropologie profane dans la modernité. Donc la perspective interne et externe sont désarticulées. Et vous voyez, on vient à la fin, ce sera la prochaine fois, sans doute la page 23, et on s'achemine à la fin de cette première partie, des modèles d'articulation entre anthropologie profane et anthropologie théologique. Il y a effectivement différentes manières de résoudre aujourd'hui ce problème. Je vous proposerai 3, voire 4 modèles différents qui sont pratiqués aujourd'hui en théologie et en pastorale aussi. Voilà donc, si vous voulez, l'itinéraire. Alors maintenant, tout de suite, le chapitre 2. Et il faut bien reconnaître et recommencer par là qu'il y a d'abord, j'ai terminé par cela la dernière fois, des difficultés internes. Des difficultés internes. Le discours chrétien n'est pas lisse, si vous voulez dire. Il a même connu des déformations. Il faut bien le reconnaître. Et il y a une que j'ai déjà évoquée la dernière fois, c'est le modèle de substitution pénale qui se dresse aussi sur des évidences dans les sociétés de l'époque. Je le note à la page 12, en vous donnant aussi cette terrible citation de Édouard Hugo dans Le mystère de la rédemption. J'avais terminé par cela. Alors on peut évidemment se poser la question, mais je dirais, est-ce que c'est possible que le discours chrétien se déforme? La tradition catholique a toujours un peu des difficultés, évidemment, avec ça, notamment après 1870, la déclaration de l'infaillibilité pontificale. Mais je vous cite ici, je vais vous le lire juste brièvement, Unitatis Redintegratio, donc le numéro 6 du décret sur l'œcuménisme, et qui se greffe sur un extrait du discours de Jean XXIII le 11 octobre 1962, c'est-à-dire l'ouverture du Concile Vatican II. Donc ce numéro 6, vous voyez, « Toute rénovation de l'Église consistant essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation, c'est dans cette rénovation que se trouve certainement le ressort du mouvement vers l'unité. » Le texte avait déjà traité du mouvement œcuménique. « L'Église, au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente. » Vous voyez, donc le catholicisme intègre cette notion de réforme permanente, qui est en fait un concept médiéval, il faut bien le dire, et qui a été ensuite, je dirais évidemment, honoré au XVe siècle et au début du XVIe siècle par Luther. La réforme permanente, dont elle a perpétuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Si donc, voilà maintenant la phrase de Jean XXIII, par suite des circonstances en matière morale, dans la discipline ecclésiastique, ou même dans la formulation de la doctrine, qu'il faut distinguer avec soin du dépôt de la foi, il est arrivé que sur certains points on se soit montré trop peu attentif, il faut y remédier en temps opportun d'une façon appropriée. Et cela concerne sans doute, évidemment, le discours du salut. Donc, quand on dit c'est difficile pour nos contemporains d'accéder au mystère chrétien de l'homme, à la doctrine chrétienne du salut, il faut d'abord, premier acte, pastoral aussi et théologique et doctrinal, s'interroger si les difficultés ne viennent pas de l'interne même, c'est-à-dire de la formulation à distinguer du dépôt de la foi. Et donc tout un travail consistera précisément à revoir l'histoire pour cela, parce que c'est l'histoire qui nous permet de voir ça. Alors vous voyez, je vous ai donné ici une référence importante à mon avis, donc l'ouvrage de Bernard Sesboué, qui fait cette opération « Jésus-Christ, unique médiateur, essai sur la rédemption et le salut ». Et je vous ai donné ici l'essentiel. Vous voyez, l'essentiel de, au moins de cette première partie de son ouvrage, qui me paraît vraiment très 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 bien vu sur ces points. Alors il y a un présupposé, c'est le point A. Ensuite on verra un peu le développement, comment il fait concrètement. Ce sont ces mots déconversion et conversion. Et évidemment il y a un diagnostic pastoral qui est un peu à la clé. Donc ça, c'est, si vous voulez, je dirais, des difficultés internes au discours chrétien sur le salut. Ensuite, évidemment, il faut s'interroger sur les difficultés externes, c'est-à-dire de type culturel, qui nous viennent de la société dans laquelle nous vivons. C'est dans la connexion que se fait, évidemment, la reconsidération herméneutique de notre discours. Alors, Bernard Sesbue part d'un ouvrage d'un luthérien suédois, Gustav Aulén, Christus Victor, c'est-à-dire le Christ vainqueur, la notion chrétienne de la rédemption, 1934, et c'est le premier, au fond, qui distingue dans la sotériologie chrétienne, dans l'anthropologie chrétienne, deux grandes phases, si vous voulez, le premier millénaire et le deuxième millénaire, au tournant se trouvant, je vais en traiter en détail dans la première partie, Saint Anselme, qui est au fond la figure de passage, Saint Anselme. Et donc vous avez une première phase qu'on appelle aussi une sotériologie descendante, qui, le terme vient de Aulén, qui insiste donc sur le mouvement descendant du salut et sur l'action de Dieu, l'action libératrice de Dieu et la gratuité du don fait à l'homme. Voyez, toute la théologie de la grâce, qui face au pélagianisme, on va y revenir, pélagianisme, au 4e, 5e siècle, est formulée par Augustin et ensuite par le 2e concile d'Orange. Encore une fois, on va y revenir. Donc, la gratuité absolue du don. Et c'est à partir de Saint Anselme, je vous ai déjà donné la date, qu'on va assister à un renversement de plus en plus accentué du discours, je dirais de l'orientation du discours, du mouvement du discours. Ça va devenir un mouvement ascendant. Et va s'introduire ici avec force une christologie de la rédemption, oui, à partir du sacrifice du Christ. Donc avec la notion de sacrifice, voyez. Le Christ est mort pour s'offrir en sacrifice au Père. Et voilà, donc la thèse de Saint Anselme, un peu caricaturée encore ici, mais on la verra vraiment en détail, pour satisfaire, satisfactio, pour satisfaire ainsi à la justice divine. Donc avec la question, au fond, comment l'honneur de Dieu est blessé, comment rétablir l'honneur de Dieu? Et c'est au fond le Christ qui a rétabli cet honneur de Dieu. Donc le salut, c'est le rétablissement de cet honneur, la satisfactio. Et on a derrière, évidemment, je dirais, une société d'honneur qu'on connaît encore, voyez, qui est un peu derrière, c'est le modèle sous-jacent. Mais on entre dans un mouvement ascendant à partir de ce moment-là. Alors, c'est ce renversement qui, selon Bernard Sesbue, rend possible ce qu'il appelle la déconversion, et ça c'est le centre maintenant de son raisonnement, la déconversion du discours du salut. La déconversion, qui conduit, c'est-à-dire à un texte comme celui que je vous ai lu au début, Édouard Hugon, voilà, que vous avez en haut, voilà, insupportable pour nos oreilles, voilà. Déconversion. Mais alors comment parler de déconversion s'il n'y a pas d'abord conversion. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Le discours du salut chrétien est un discours relationnel. Le concept central dans l'Ancien Testament, il le sera moins dans le Nouveau, c'est le concept d'alliance. Et le concept d'alliance, de relation, j'avais beaucoup développé ça tout à fait au début du cours, à travers le jeu des prépositions, le devant Dieu, etc., le cours de l'alliance, de la relation, est d'abord un discours humain. C'est-à-dire, il prend les relations humaines de paternité, de maternité, engendrement, de relations fraternelles, etc., et les transpose, et les métaphorise pour parler de la relation entre Dieu et l'homme. Voilà. Oser, évidemment. Et bien d'autres. Tous les prophètes font cette extraordinaire opération, la métaphorisation des relations. Et évidemment, dans les lois du langage développées par la grande théologie médiévale, je veux dire argumentative, permet de préciser cette métaphorisation avec la notion d'analogie, je n'entre pas dans les détails, mais notamment les trois voies. Vous rappelez de cela, sans doute, de la théologie fondamentale, les trois voies, c'est-à-dire un discours sur Dieu passe d'abord par l'affirmation, par la négation, parce que Dieu n'est pas comme l'homme. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, infiniment au-dessus, comme dit Isaïe. Et en même temps, il y a quand même un rapport possible. Alors c'est la troisième voie, la voie d'excès. La voie d'excès, avec la notion d'excès, de surabondance, je dirais, de la grâce. Donc il y a dans le discours du salut une altérité, même si nous parlons un langage humain. Et voyez, c'est dans cette conversion du discours, pour pouvoir parler de Dieu et de sa venue, de sa grâce, du don absolu, absolument gratuite de sa grâce, c'est dans ce processus-là peut s'inscrire évidemment le péché humain et donc ce que Bernard Cesbouet appelle la déconversion, c'est-à-dire la transposition, la métaphorisation ne fonctionne plus de manière juste. Alors, vous avez ici la définition. Bernard Cesbouet utilise donc en bas de la page 12 l'image, c'est une métaphore du court-circuit. Image, n'est-ce pas, électrique, le court-circuit, ce qui est le contact immédiat entre la phase positive, donc quelques réminiscences de vos cours de physique ou de vos expériences, parce que c'est peut-être déjà arrivé à chacun de nous, contact immédiat entre la phase positive et le neutre d'une ligne électrique. En cas de contact entre les deux fils, se produit une hémorragie subite de l'énergie avec des effets nuisibles et violents de déconstruction, de destruction. Voilà, il utilise donc cette métaphore pour dire ce qui s'est passé avec le discours du salut. C'est-à-dire, on applique à la rédemption une confusion entre la miséricorde absolu de Dieu, qui est le cœur même de l'Évangile. Jean-Paul II était extrêmement sensible à ça. Sa première encyclique qui porte là-dessus. La miséricorde, la bonté radicale de Dieu et la violence humaine. Parce qu'un Dieu dont il faut venger, dont il faut rétablir l'honneur, vous voyez, risque de transposer en Dieu même la violence humaine. Voilà. Ça, c'est la déconversion. La déconversion. La perversion. Vous avez donc maintenant la citation à la page 63 de ce volume que je vous ai montré. Qu'est-ce que c'est la déconversion? Vous voyez, il va loin. Il utilise même le terme de perversion. Moi, ça me fait toujours penser à Maurice Belet, le Dieu pervers. Qui a marqué un certain nombre les plus âgés d'entre nous. C'était comme une sorte de révélation de quelque chose de terrible, la perversion, le Dieu pervers. Voilà. La perversion consiste alors à faire passer d'un pôle à l'autre la violence et à présenter comme un bien ce qui est d'abord le fait du mal et des hommes pécheurs. L'exécution sanglante du Christ en croix. Elle oublie tout simplement que le meurtre en tant que tel n'a rien de salutaire. Que la mort en tant que mort ne peut nullement être objet d'un dessein de Dieu. La passion du Christ est salvifique parce qu'elle convertit. Vous voyez, là, maintenant, on passe de la déconversion à la conversion. Parce qu'elle convertit cette œuvre de mort, de violence, en œuvre de vie. Dans le combat, que cette passion salvifique mène avec l'œuvre de mort. Et dans l'amour, le don de soi et l'obéissance sont les armes absolues. Donc, vous voyez, là, il y a une sorte de clarté subite, n'est-ce pas, qui émerge ici. Si vous comparez cela avec la citation d'Édouard Hugon, vous voyez tout de suite le pas essentiel qui a été fait ici. Une clarification. Conversion des conversions. Voilà. Possible. Voilà. Alors, en fait, il s'agit... Ça explicite maintenant un tout petit peu la thèse qui nous conduit, si vous voulez, vers une citation de l'Épître aux Romains qu'il faut clarifier. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Donc il s'agit de bien, bien comprendre, évidemment, cette triple livraison. J'y reviendrai tout de suite. Nous sommes là au cœur de la sotériologie paulinienne et chrétienne. Et alors, la formule d'une extrême précision dans le discours de Pierre, de Pentecôte, dans les Actes, cet homme, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Donc, vous voyez là, on sort vraiment de la déconversion. Les acteurs sont maintenant clairement positionné, et c'est ça l'enjeu dans le discours du salut. Les trois partenaires de ce qu'on peut appeler avec Balthazar le drame de la rédemption. Le drame de la rédemption. Voilà. Le christianisme, l'anthropologie chrétienne prend radicalement au sérieux l'histoire humaine comme une dramatique, une véritable dramatique. Est-ce que Balthazar y réussit? C'est une autre question. Moi, je ne pense pas, mais voilà, ça, c'est là les positions, on va y revenir à ce débat. Donc, il faut bien voir qu'il y a trois partenaires. Le Père qui lui donne son Fils, qui donne son Fils. Donc, dans le paradis d'Omi, on va revenir à ça, le livrer, il faut entendre le donner, voilà. Le Fils qui se donne au Père et à ses frères, dans son amour jusqu'à la mort, les hommes pécheurs, qui sont témoins d'un refus de Dieu qui va jusqu'à donner la mort. Le refus qui donne la mort, le meurtre. Voilà. Et donc, dans cette formulation, il y a toujours le risque de confondre l'action de l'homme et l'action de Dieu. Et voyez, ça c'est évidemment quand vous mettez un des pôles de votre circuit électrique et le neutre, vous le mettez en contact, alors ça explose, ça explose. Alors, il y a un auteur très important, très discuté, René Girard, qui a peut-être été le premier d'avoir attiré réellement l'attention sur cette difficulté. Hein. Donc, je vous ai mis, vous trouvez ça dans la bibliothèque, plus de détails à la page 137, deux de ses ouvrages. Il a écrit bien, bien d'autres choses depuis. Il s'est intéressé à la littérature, il vit aux États-Unis, etc. C'est un auteur intéressant qui mérite lecture, méditation. Et il introduit dès 1972 cette notion du pacte sacrificiel. Vous voyez, on revient maintenant, à du discours chrétien et de la déconversion du discours à ses présupposés sociaux, pourrait-on dire, dans la société, parce que ce n'est pas le christianisme comme tel qui est fautif, si je puis dire, de la déconversion qu'on a par moment connue. Mais cette déconversion a trouvé, je dirais, des connivences terribles, je l'ai déjà dit au début, dans quelque chose de très archaïque dans l'être humain, et ce qu'il appelle, lui, le pacte sacrificiel. Alors, on peut discuter son travail. Je vous ai mis deux références dans la bibliographie, une de Paul Valadier et une autre de Jacques Guillet, qui, après la sortie de ces deux volumes, ressaisit très très bien, à mon avis, le raisonnement de René Girard, lui rend honneur et apporte en même temps des critiques. Notamment dans sa lecture de l'Épître aux Hébreux, vous imaginez bien que c'est ce texte-là, controversé, auquel on va revenir, qui joue un rôle tout à fait décisif par rapport à cette notion du pacte sacrificiel. Donc l'intérêt des ouvrages de René Girard, c'est de nous fournir une explication, entre guillemets, de nous faire comprendre, de nous mettre sur une piste qui nous permet de comprendre des déformations et des conversions dont je parlais à l'instant. Alors qu'est-ce que c'est ce pacte sacrificiel? C'est au fond la fondation de la solidarité du lien social sur un meurtre fondateur. Un meurtre fondateur, c'est-à-dire les frères ennemis, se mettent d'accord sur le dos du troisième, du bouc émissaire, et déchargent d'une certaine manière leur violence sur lui, tuant le sacrifice, et fondent par là donc le lien entre eux. Donc ça, c'est le si vous voulez, il y a deux éléments, je dirais, très contestables, discutables, je dirais même contestables dans la théorie de René Girard. La première, c'est au fond de dire au commencement a été la violence. D'une certaine manière, il dit cela. On va revenir évidemment à cette thèse que toute la tradition biblique conteste d'un bout à l'autre. Au commencement, il y a la bonté, mais pas la violence, hein. Donc au commencement, il n'y a pas même archaïquement, je ne crois pas qu'on peut le défendre, le pacte sacrificiel. Mais c'est une manière de comprendre quand même la chose. Et la deuxième chose que j'explicite pas ici, c'est-à-dire cette violence chez René Girard est mimétique. Alors là, je dirais, c'est pas contestable, c'est discutable la manière dont il l'explicite. Parce que c'est vrai, quand on observe des gamins, ce qui nous est arrivé tous avec grande joie, comment est la violence? Il y en a le premier qui saisit un jouet, et évidemment le deuxième veut l'avoir aussi. Hein, c'est l'imitation. Et hop, l'affrontement, je dirais, risque de se produire ici. Alors, le grand tort, voilà la thèse de René Girard. Le grand tort du christianisme, ça serait l'interprétation victimaire de la rédemption. Et il cite l'Épître aux Hébreux, et c'est discuté jusqu'à aujourd'hui, comme le grand fautif dans cette affaire-là. L'interprétation victimaire de la rédemption. Le pacte sacrificiel entre Dieu et l'homme au détriment du Christ. Pacte qui introduit évidemment la violence en Dieu, c'est l'homme qui le fait, et produit le court-circuit dénoncé par Bernard Cesbué. Vous voyez, quand on parle de colère de Dieu, toute la question est là. Qu'est-ce qu'on comprend, je dirais? Qu'est-ce qu'on comprend quand on parle de la colère de Dieu, qui était quand même, je dirais, un syntagme omniprésent dans l'Ancien Testament, et on ne peut pas le mettre uniquement sur le dos de l'Ancien Testament, on le trouve aussi dans le Nouveau Testament, aussi. Donc il y a vraiment ici une question de fond. En tout cas, cette première analyse qui est terminée là, donc les difficultés internes au discours chrétien du salut, cette première analyse, le regard critique sur nous-mêmes, l'auto-interrogation, a une conséquence pastorale tout à fait décisive, ce que j'appelle évidemment une certaine hygiène au niveau du discours, une certaine hygiène pastorale. Quand on parle de ces choses-là, attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on n'entre pas, qu'on glisse pas, souvent c'est ça le cas, dans un discours, je dirais, finalement, qui conduit vers la déconversion et qui introduit, je dirais, en Dieu ce qui est de l'ordre du fait de l'être humain. Alors maintenant, deuxième versant, les difficultés venant des données anthropologiques contemporaines. Alors là, maintenant, on adopte réellement la perspective externe. Et les premiers tirets, si vous voulez, signalent tout de suite une difficulté de fond et que je vais ensuite un peu, si vous voulez, développer, bien sûr. Quelle est la difficulté de fond? Je l'ai déjà nommée dans mon petit résumé au point de départ. C'est au fond, je dirais, une difficulté non éclairée, c'est-à-dire la particularité de notre discours. La particularité de notre discours chrétien du salut, et la prétention, je dirais, à l'universalité. La prétention à l'universalité. Vous voyez, j'ai dit, on a eu une exemplification extraordinaire hier, une mise en scène. J'ai dit, le synode se situe, qui a commencé hier, se situe en fait sur le premier versant de mon analyse anthropologique que je viens de vous présenter. Une réinterrogation dans la ligne de Unitatis Ret Integratio 6 que je vous ai lu tout à l'heure, sur ce commandement du Christ, voilà, ce qu'on appelle, voilà, l'indissolubilité du mariage et toute la théologie du mariage de l'Occident. Une Église qui, face aux difficultés contemporaines, s'interroge elle-même et fait, comme à Vatican II, une opération, on va voir ce que ça va donner. En deux temps, il ne faut pas oublier ça, pour la première fois depuis 1962, ce qui permet que les positions s'affrontent librement. Et c'est ça, ça va se faire tout de suite, là, bien sûr. Et qu'à un moment donné, voilà, je dirais, il faut se mettre d'accord, s'entendre, qui est le signe de l'esprit. Ce qui s'est fait à partir de 63, difficilement, pendant trois ans, 63, 64, 65, jusqu'à la fin du Concile Vatican II. Donc, on va avec une question. Une auto-interrogation, c'est-à-dire, au fond, le discours chrétien sur le mariage peut passer par une déconversion. Donc, il faut s'interroger. Et alors, on a eu de l'autre côté, évidemment, je dirais, dans la société française, le mariage pour tous, on vient d'avoir une législation, voilà, et tout le monde sait que la République est universelle, et que les droits de l'homme, n'est-ce pas, sont ceux, je dirais, de l'humanité tout entière. Et on a des protestations, évidemment, qui se sont érigées contre cela, de l'autre côté. Et faisant comme si la position catholique était bétonnée, c'est-à-dire donnée comme ça. Alors, il y a un problème. Et le problème est ici. Et pas moins que le pape Benoît XVI s'y est affronté devant le Bundestag, quand il est revenu pour la première fois dans son pays, donc en Allemagne, à Berlin, il a parlé devant le Bundestag. Alors là, c'était plutôt la question écologique qui l'occupait, qui est une autre question aussi complexe et difficile. Et le problème qu'il a souligné admirablement, c'est le rapport entre la particularité du discours chrétien et sa prétention à l'universel. Et voyez, pour le moment, et si vous regardez le texte de Walter Kasper, « Divorcé, remarié », si vous regardez le texte de la Commission théologique internationale « À la recherche d'une éthique universelle, nouveau regard sur la loi naturelle », le médiateur, si vous voulez, l'opérateur pour la tradition catholique, entre la particularité de son anthropologie et l'universel, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle. Et c'est en fonction de cela, d'ailleurs, qu'on a traditionnellement argumenté en fonction d'un type de mariage considéré comme universel, sans prendre en considération, d'ailleurs, la pluralité des modèles qui existe, Lévi-Strauss, etc. Je vous renvoie au dernier numéro de recherche de sciences religieuses. Vous avez un remarquable exposé, je dirais, du problème. Alors, c'est là la difficulté de fond, si vous voulez, quand on s'affronte au versant extérieur et qu'il faut réellement affronter, à mon avis. Alors, regardez le texte de Benoît XVI, qui regrette la particularisation du concept loi naturelle et nature humaine. Est-ce qu'il y a une nature humaine? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que la tradition chrétienne a besoin de ce concept nature humaine et loi naturelle? Voilà, je dirais, la question. Alors, je le cite, l'idée du droit naturel est considérée aujourd'hui comme une doctrine catholique. Plutôt singulière, c'est pas très bien traduit parce qu'il dit particulière, plutôt particulière. De sorte qu'on a presque honte d'en mentionner même seulement le terme. C'est-à-dire tout le monde, ce qui a été universel, tout d'un coup est considéré dans nos sociétés comme absolument particulier. Vous utilisez ce terme dans un discours à la télé et à la radio, vous êtes tout de suite évidemment reconnu comme catholique, comme si vous aviez une petite croix, vous voyez. C'est la même chose. Porter la petite croix ou comme prêtre à la télévision ou de nommer la loi naturelle. Vous voyez, c'est intimement lié. C'est devenu un signe de reconnaissance. Vous voyez la difficulté énorme. Et Benoît XVI avait une honnêteté aussi dans son débat avec Habermas à Munich avant d'être élu pape, où il a reconnu la difficulté, il propose des solutions, on va trouver des solutions ensemble. On va avancer quand même dans ce cours sur ce point. Mais il faut d'abord reconnaître cela. Alors encore une toute petite anecdote de ce point de vue. Je vous invite à ouvrir le catéchisme de l'Église universelle. Et vous avez à la fin un registre. Et dans le registre s'intitule, regardez bien, « Écrivain ecclésiastique ». Et parmi les écrivains ecclésiastiques, donc des chrétiens, il y en a un seul, à la lettre C, qui n'est pas chrétien. Il s'appelle Cicéron. Évidemment. Pourquoi Cicéron? Parce que c'est le premier qui a inventé l'idée de la loi naturelle. Mais dans une perspective évidemment stoïcienne. Donc vous trouvez donc cette philosophie stoïcienne entrée dans le catéchisme de l'Église universelle. Alors, il ne faut pas critiquer ça. Mais il faut peut-être dire qu'il y a peut-être d'autres écrivains non chrétiens qui un jour trouveront le titre de noblesse d'écrivain ecclésiastique. Marcel Mauss, par exemple, pourquoi pas? Et peut-être bien d'autres. Donc, vous voyez, ça vous indique au moins le problème, peu importe la solution. Mais je voudrais que vous compreniez bien le problème qui est ici. Alors, le problème, comment le préciser maintenant? Donc, derrière, il y a la notion de la nature, loi naturelle, la nature. Mais le problème de fond de la conscience contemporaine, c'est la conscience, la singularité absolue de la conscience humaine, et de la liberté, ce qu'évidemment Benoît XVI reconnaît dans son discours, tout en tentant, et ça l'honore, d'établir contre ce qu'il appelle le pur positivisme du droit, j'y reviendrai, un lien intrinsèque entre l'être ou la nature et le devenir ou le droit, obligeant la conscience individuelle, étant présupposé que conscience et liberté ne signifient pas arbitraire et libertinage. On est d'accord avec ça, évidemment. Mais voyez, vous avez là le problème. Le droit dans nos sociétés modernes, on y reviendra, est positiviste ou pragmatique, c'est-à-dire il règle les situations telles qu'elles se présentent. Il ne prend pas position, il est agnostique par rapport à l'être humain. Il définit pas ce que c'est l'être humain. Alors, c'est la conscience, finalement, qui est protégée et la liberté. Mais comment informer la conscience et la liberté? Est-ce qu'il n'y a pas quand même là un universel qui intervient? Voilà la question. Alors, ça a des conséquences énormes que vous mesurez peut-être pas encore. Comment comprendre maintenant, le « pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel » si au cœur de l'anthropologie contemporaine, il y a la conscience et la liberté. La difficulté vient moins, je dirais, à ce moment-là, du pacte sacrificiel ou du caractère sacrificiel du « pour nous ». Vous voyez, ça, on en a déjà parlé, ça c'était le premier versant, le caractère sacrificiel du pour nous. Mais la difficulté est plus radicale, elle vient de l'insubstituabilité du sujet et de la liberté. Comment comprendre un pour nous et le fait que l'être humain moderne, contemporain, ne peut pas accepter qu'un autre se substitue à lui? Vous voyez, que veut dire donc le « pour nous » Et pour le pour nous, nous allons le voir déjà à la fin de la prochaine séance, la prochaine fois. On a des traductions pour nous, c'est-à-dire à notre place, en lien avec nous, en solidarité avec nous, en notre faveur. Comment comprendre ce pour nous ? Face à une anthropologie, vous voyez, où personne ne peut vivre l'essentiel de sa vie à la place d'un autre. Que veut dire salut ? Que veut dire salut ? Voilà, si vous voulez, je dirais le point de départ. Alors, pour le profiler un tout petit peu, on peut le comparer, et là je vous ai sorti deux citations, déjà du IVe siècle, et ensuite une précisément de saint Anselme, au tournant du mouvement descendant vers le mouvement ascendant, qui ont pressenti cette difficulté. Premier, Grégoire de Nyssa. Donc vous le situez, IVe siècle, fin du IVe siècle. Celui qui contient l'univers par l'action de sa volonté et qui donne au néant existence par le simple, souligné simple, le simple mouvement de sa volonté. Pourquoi n'aurait-il pas pu, selon son bon plaisir, libérer l'homme de la puissance qui s'oppose à lui par l'action puissante de son gouvernement divin ? Voyez ce qui est mis en difficulté ici, ou en question, c'est le long chemin du salut, le long chemin que retrace le symbole, oui, entre création, rédemption et accomplissement. Pourquoi, finalement, cette mécanique si compliquée, oui, une mécanique de médiation? Alors cela, l'argument ici central, c'est la simplicité de la volonté divine. Pourquoi avoir créé l'homme imparfait pour devoir ensuite voler à son secours ? Alors ça, c'est une formulation un peu catéchétique d'un enfant. Pourquoi avoir créé l'homme imparfait pour devoir ensuite voler à son secours ? Donc cette question est ancienne. Alors Anselme la pose dans les mêmes termes, dans le grand traité « Pourquoi Dieu ?» s'est-il fait homme ? Le Cur Deus Homo, texte auquel nous reviendrons. Cette question fait l'objet habituel, je le cite, et des objections que nous opposent les infidèles en tournant en ridicule la simplicité du christianisme qu'ils qualifient de folie, et des préoccupations profondes de nombreux fidèles qui se demande en vertu de quelle raison, de quelle nécessité Dieu s'est fait homme et a, par sa mort, comme nous le croyons et proclamons, rendu la vie au monde, alors qu'il aurait pu obtenir ce même résultat, soit par une autre personne, alors ça c'est l'argument médiéval typique, angélique ou humaine, soit par sa seule volonté. Pourquoi il y a 2000 ans par Jésus de Nazareth ? Cette question suscite donc la recherche et un désir de solution. Et voyez bien, il ne s'agit pas seulement des esprits cultivés, mais Anselme dit pour les esprits simples, sans culture. Donc c'est au fond la même question qu'on va retrouver chez Dostoïevski aussi, bien d'autres. Alors, vous sentez, c'est pour ça que je vous ai donné ces deux citations, le déplacement qui se fait. Grégoire de Nyssa et Anselme argumentent, ils s'étonnent évidemment devant le fait contingent du salut, de la singularité de l'événement, voilà, à partir de la simplicité de la volonté de Dieu. Voilà. Alors, ça, c'est plus notre problème aujourd'hui, au moins sous cette formulation-là. Mais pour nous, le problème, c'est plutôt la question de l'insubstituabilité de la personne. Comment articuler cette insubstituabilité ? Personne peut vivre l'essentiel de sa vie à la place d'un autre. Voilà la formulation un peu plus technique que je donne. Avec la notion de salut, pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel, il a pris cher, etc., etc., pour nous. Alors, derrière, évidemment, cette interrogation se dégage une conception de l'homme. Et donc, je vous propose ici, si vous voulez, je dirais deux petits points qui vont reboucler avec ce qui a précédé. Donc, d'abord, la situation de l'homme dans nos sociétés néolibérales. Premier point. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer brièvement dans le point B, ce sera la fin de mon diagnostic, difficile accès, c'était le titre, difficile reconnaissance de la proposition chrétienne du salut par l'homme moderne et contemporain. Je vais vous proposer dans le point B, à la page 16, un petit diagnostic, c'est-à-dire que devient le discours du salut dans cette société dans laquelle nous sommes. Que devient-il? Et où se situent exactement les difficultés? Alors, prenons donc la société de l'homme dans nos sociétés libérales. Et là, je voudrais un peu simplifier les choses, notamment à partir de plusieurs ouvrages, si vous voulez, je dirais, qui datent déjà pour une partie. Mais je vous le propose quand même parce que le diagnostic s'est plutôt radicalisé, à mon avis. Donc vous avez Gilles Lipovetsky, qui est maintenant déjà un classique, « L'ère du vide », et c'est sur l'individualisme contemporain. Ça nous renvoie à 1983. Donc vous voyez, ça fait une trentaine d'années. Et 10 ans après, Allen Ehrenberg, « La fatigue d'être soi », « Dépression et société », et en 95, « L'individu incertain ». Alors, ça nous donne un horizon, vous voyez. Je dirais radicalisation, mais vous allez voir dans la suite de ce que je vous propose, en même temps, il y a des résistances qui se manifestent, et ça c'est nouveau aussi, qui date déjà aussi un tout petit peu, c'est-à-dire des résistances à cette anthropologie néolibérale. Et peut-être là-dessus va se greffer une possibilité de rendre plausible aussi le discours chrétien du salut, mais qui a évidemment ses propres paramètres, proprement divins, on va y venir. Alors, on peut, si vous voulez, résumer un peu les choses à travers trois paramètres que je vous propose très rapidement, je dirais, ici. Donc, le premier, l'expérience du mal-malheur. L'expérience du mal-malheur. Vous voyez, quand je dis mal-malheur, je ne dis pas mal-moral, qui a obsédé la culture occidentale, le mal moral, le péché, voilà. C'est proche de la maladie, mais le mal-malheur, c'est, si vous voulez, ce qui tombe à l'improviste. Et on cherche des causes. Voilà. Le bouc émissaire, les responsabilités, mais quand on a un tsunami, voilà. Les causes. C'est une question difficile à poser, voire impossible. Le mal, malheur. On entend bien heure derrière. Voilà. On va revenir à ces distinctions plus tard. Et je dirais, c'est devenu pour l'homme moderne une expérience excessive. Excessive. Alors, quelques éléments, les guerres mondiales, Auschwitz, la notion crime contre l'humanité, les famines, les appauvrissements, les guerres religieuses. On a eu quand même cet été un climat un peu de guerre mondiale, d'une certaine manière, quand on voit la complexité des choses. Alors, le point essentiel, c'est tout paraît instantanément sur le petit écran. Instantanément. Et produit, si vous voulez, par une surexcitation, notre indifférence, finalement. Une sorte de d'anesthésie. Une sorte d'anesthésie. C'est sur ce point-là que je voudrais surtout insister. Donc, vous avez d'un côté l'effet public au collectif et vous avez évidemment l'innombrable nombre, si je puis dire, des faits divers qu'on vous assène chaque jour, dans les nouvelles de toutes sortes. Voilà. Et les souffrances individuelles. Le résultat, l'excès produit l'anesthésie, l'indifférence, Et ce qui nous menace peut-être le plus dans nos sociétés, Jean-Baptiste Metz avait déjà attiré l'attention là-dessus, c'est-à-dire l'apathie. L'apathie. L'apathie est le retrait par rapport à la globalité de la société risquant de devenir un spectacle pour beaucoup d'entre nous et qui s'inscrit souvent, évidemment, dans le besoin émotionnel. Alors, si vous voulez, ça c'est une première face de description. Alors ensuite, l'autre face, l'aspiration des individus au bonheur. Alors je pense qu'on peut caractériser, on va revenir, si vous voulez, je dirais, à ces deux éléments, je l'indique plus tard, éléments collectifs, dans la troisième partie du cours, et là, l'aspiration au bonheur. Réussir sa vie, je pense que c'est une formule qui dit assez bien au fond, l'aspiration la plus profonde des êtres humains. Réussir sa vie. Et donc on met en œuvre un nombre impressionnant de techniques de toutes sortes, ça c'est aussi un phénomène libéral, je dirais économique, hein, de techniques psychologiques, d'adaptation physique, sportive, diététique, de mise en forme, voilà, pour se sentir bien dans sa peau. Voilà ce qu'on appelle l'hédonisme ou le narcissisme de nos sociétés néolibérales. Voilà, deuxième élément, voilà, d'un diagnostic. Ce qui, et là vient le point le plus important, conduit vers une mutation profonde des rapports entre le collectif et la singularité de nos existences. Voilà. Le collectif et la singularité de nos existences. Alors, je le précise un peu très rapidement dans la suite, on va y revenir, je le disais déjà dans la troisième partie des cours, du cours. Donc, ce qu'on appelle, à partir des années 80, chez Lipovetsky, chez d'autres théoriciens, la fin des grands récits de l'humanité. Mais la prise de conscience, au fond, que les grandes religions, les tragédies grecques, etc., ces grands textes, le Gilgamesh, Épos, sont des mythes, des grands mythes, et on va parler à partir de ce moment-là aussi du mythe chrétien, qui permet d'articuler, qu'ils ont permis d'articuler de manière assez remarquable le singulier, le particulier et l'universel, Articulation de l'individuel, du social et du cosmique. Et on assiste donc, et ça fait partie au fond, je dirais, de la crise, pourrait-on dire, de la civilisation européenne, mais occidentale, à la fin d'une vision religieuse ou tragique du monde, portée, ces visions, par des grandes institutions aussi, la fin de leur substitut sécularisé, le marxisme, voilà, après la chute du mur notamment, et qui, à partir de ces mythes, ont proposé aussi des transformations globales du monde par l'ascétisme du travail, la notion du travail qui est centrale, et le volontarisme militant. Et c'est déjà une autre critique que j'ai envie d'introduire ici par rapport à Gaudium et Spes. Parce qu'évidemment, entre 62 et 65, la composition de la constitution pastorale de l'Église dans le monde de ce temps, 62-65, avec son troisième chapitre sur l'action de l'homme dans le monde, est entièrement, je l'avais dit pendant la session de rentrée, orientée vers la notion de l'action. Et il y a une sorte de volontarisme ici, l'ascétisme du travail, le volontarisme militant. Le désengagement par rapport à ces grandes visions et mythes anthropologiques de l'humanité au pluriel ne conduit pas nécessairement vers plus d'angoisse ou plus d'absurdité. Cette vision, je cite ici en 83, l'ère du vide, cette vision encore religieuse et tragique est contredite par la montée de l'apathie de masse dans les catégories d'essor et de décadence, d'affirmation et de négation, de santé et de maladie, sont incapables de rendre compte. Qu'en reste-t-il à l'heure où le capitalisme fonctionne à la libido, à la créativité, à la personnalisation? Voilà. Je crois qu'il suffit de se balader dans certains quartiers de Paris et vous avez l'illustration parfaite, je dirais, de ce qui est décrit ici. Alors, deuxième élément, le narcissisme contemporain. Alors, dans le chapitre 3, dans l'ère du vide, Lipovetsky rappelle les trois humiliations. Donc, vous savez que c'est Freud qui a forgé ce terme-là, c'est d'une intelligence très très forte, vous voyez, les trois humiliations. Donc, la première, le tournant copernicien. Donc, l'homme découvre que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Le tournant opéré par Darwin, deuxième humiliation. Donc, l'homme inscrit dans une histoire d'évolution des mammifères supérieurs. Et le troisième, le tournant freudien, l'émergence du moi de l'inconscient. Donc, il rappelle cela. Mais il montre, je dirais tout de suite, au fond, que l'art narcissique contemporain n'est plus immobilisé devant son image fixe. Il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image. Rien qu'une quête interminable du soi. Donc, il se cache derrière cette formule « réussir sa vie ». Une quête interminable du soi. Comme l'espace public se vide émotionnellement par excès d'informations, de sollicitations et d'animations, le moi perd ses repères, donc l'apathie d'un côté, le moi perd ses repères, son unité, par excès d'attention, le moi est devenu un ensemble flou. Et va donc émerger de là une nouvelle philosophie, je dirais, du corps. Alors, je pense qu'on va plutôt, oui, il est 5h, on va arrêter là, et je préciserai un tout petit peu la suite, ce qui nous intéresse évidemment, comment cela produit ce qu'on peut appeler dans la société moderne l'érosion du, corps, du discours chrétien du salut, et qui doit se réinventer évidemment aujourd'hui. Voilà. Voilà, merci de prendre place, on va reprendre. Donc la question que je poursuis pour le moment est celle-ci. Quelle conception de l'homme se dégage du soupçon contemporain par rapport au mystère chrétien du salut? Donc à partir d'un certain nombre de données, on peut dire dans les années 80, il y a une sorte de tournant du dernier siècle, au moins dans la culture européenne. Je vous ai indiqué les ouvrages, là, qui se trouvent aussi dans la bibliographie. Et il y a, grosso modo, dans ma présentation, trois paramètres. Donc le premier, ce que j'appelle l'excès de l'expérience du mal-malheur, avec cette notion d'anesthésie, d'apathie, etc. L'aspiration des individus au bonheur, la formule « réussir sa vie », et en particulier, ça c'est le point le plus important, la mutation profonde des rapports entre le collectif et la singularité de nos existences. Avec la fin des grands récits, je ne pense pas que ce soit une fin définitive, mais on est dans une mutation, on verra. Le narcissisme contemporain, tout à fait particulier. Donc, je vous ai déjà donné une première citation de l'ère du vide à la page 63. Il faut ajouter ici, donc, une sorte de philosophie du corps qui se dégage de cela. On va y revenir plus tard. Une sorte d'identité entre le sujet et son corps. Je ne renonce pas à lire la page 68 du chapitre 3. de l'ouvrage. Investissement narcissique du corps, lisible directement au travers de 1000 pratiques quotidiennes. Angoisse de l'âge et des rides. Obsession de la santé, de la ligne, de l'hygiène. Rituel de contrôle, check-up et d'entretien. Massage, sauna, sport, régime. Culte solaire et thérapeutique. Surconsommation de soins médicaux et de produits pharmaceutiques. Etc. Incontestablement, la représentation du corps a subi une mutation dont la profondeur peut être mise en parallèle avec l'ébranlement démocratique d'autrui. C'est de l'avènement de ce nouvel imaginaire social du corps que résulte, il faut corriger, le narcissisme. Alors, 10 ans après, 93, Lipovetsky, après donc ses analyses, Alain Ehrenberg, qu'on cite beaucoup aujourd'hui, Étienne Grieux le cite souvent, souligne davantage l'aspect éprouvant de cette situation, voyez, qui paraît moins chez Lipovetsky. L'aspect éprouvant de cette situation du sujet soumis à l'impératif social d'être soi. Voyez, ça c'est l'autre versant du narcissisme contemporain, la fatigue d'être soi. Vous voyez, tous ceux qui ne peuvent pas suivre, je dirais, dans cette course, je dirais, assez pratique que je viens de nommer, vous voyez, vous avez des différenciations, des hiérarchies au sein de nos sociétés sur ces sujets qui sont énormes, énormes et de plus en plus grandes. Et de ce point de vue-là, les pauvres ne se trouvent pas uniquement dans nos banlieues, il faut bien le dire. Alors, troisième élément de cette mutation, donc l'hédonisme ou le narcissisme, voire le désengagement par rapport au collectif, ne signifie pas la fin de la socialisation. Alors, ce point est extrêmement important. Parce que là, on est vraiment dans l'actualité. Je renvoie ici à Robert Castel, c'est-à-dire avec le problème de la désaffiliation, le problème de la filiation dans nos sociétés. Ce n'est pas la fin de la socialisation. L'hédonisme obéit à des modèles directifs, des modes, des standardisations multiples, avec évidemment, c'est ça l'aspect néolibéral, des intérêts économiques ici derrière. Vous voyez, qui rejoint par exemple, ça m'a beaucoup frappé en Algérie, ou dans nos banlieues parisiennes, qui rejoint évidemment l'islam. C'est-à-dire, il y a une mode. C'est-à-dire, nous on traite ça toujours, je dirais, sur un premier plan, se voiler ou pas se voiler, hein. Oui, c'est une vraie question dans une société laïque, mais derrière il y a des intérêts économiques énormes, énormes. Oui. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Donc il y a des modèles, des standards, et qui sont multiples, et l'islam a aussi ses modèles, hein, comme le judaïsme, ses modèles, hein. Et nous aussi les chrétiens. La socialisation se transforme. Et je dirais, elle devient plus discrète. Ce serait un peu la thèse que je voudrais défendre, plus discrète. La vie associative, vous voyez, la société civile a beaucoup, beaucoup bougé de ce point de vue-là. C'est plus la question des partis ou des syndicats. La vie associative, les réseaux, les groupes de quartier, une conscience régionale et locale, précisément pour résister à ce que je viens d'écrire. La résistance. Et donc, on était moins sensible à cela dans les années où Lipovetsky a fait son ère du vide, et même 10 ans après chez Ehrenberg. On est plus sensible à cela aujourd'hui. À la fois, on parle de la crise de la culture européenne, mais en même temps, il faut évidemment des lunettes beaucoup plus précises. C'est-à-dire des forages en profondeur dans nos sociétés, pas uniquement à Paris, mais ailleurs aussi. Voilà. Une lecture en profondeur pour découvrir ces micro-réalisations qui ne sont pas beaucoup encore connectées, mais où peut-être une nouvelle représentation du monde est en train d'émerger, et de l'homme. Voilà. Alors, ce qui me conduit vers maintenant le point B, cette situation, voilà, que j'ai essayé de décrire sans farder, si vous voulez, sans fard, hein, vraiment de manière un peu crue et réaliste, elle reflue évidemment sur le discours du salut, sur le discours du salut. La mise en valeur, pourrait-on dire, concomitante, c'est-à-dire l'érosion du discours du salut chrétien d'un côté et la réévaluation du discours éthique. L'érosion des notions comme péché et salut, d'un côté, dans la conscience commune, au point qu'ils ne sont même plus du tout compris, mais émergence d'une véritable éthique dans nos sociétés. Alors d'abord, la mise en valeur nouvelle de l'éthique, alors sans doute dans une double, je dirais, direction, c'est-à-dire le désinvestissement affectif par rapport à la société globale. Donc mon premier point de tout à l'heure, nous vivons dans une société spectacle, vous voyez, hein. L'anesthésie, l'apathie ne signifie pas la disparition d'une éthique collective. Au contraire, il y a énormément d'efforts ici, et je dirais, le département ici dans la maison, l'éthique biomédicale, éthique publique, tente précisément de montrer cela. Donc il y a la éthique biomédicale, extrêmement codifiée déjà, une éthique économique aussi, je dirais, qui existe, hein, une éthique politique, tout le débat sur la corruption, même s'il est souvent, je dirais très contradictoire. Elle est marquée, si vous voulez, je dirais, cette éthique, je parlais de socialisation discrète, par une attitude et une valeur fondamentale dans nos sociétés, qu'est la modestie, et qui caractérise une multitude de mini-réalisations alternatives ou non. La modestie, la valeur de la modestie. Voilà. Ah, c'est déjà ça. Une association qui réussit bien, voilà. Une ville, voilà, où tout d'un coup, je dirais, le retraitement des déchets se fait d'une manière tout à fait nouvelle, où il y a une inventivité, je dirais, dans un quartier, des gens qui se rencontrent. C'est déjà ça, vous voyez, une sorte de modestie, hein, dans une conscience très apathique de crise. Je reviendrai dans la troisième partie du cours à cela dans le premier chapitre, sous le titre « La désignation du moment présent, chance et risque de la créativité humaine ». Donc la question du salut et le lien avec la créativité. Alors ça c'est le premier versant public et collectif. Il y a le versant individuel, l'éthique individuelle, sexuelle, relationnelle, etc. avec la gestion très difficile de la mobilité des sujets. Voilà. C'est ça, finalement, peut-être qui les caractérise le plus. Le nomadisme contemporain dans nos sociétés. Voilà. Avec la valeur fondamentale ici, vous voyez, quelque chose d'éminemment positif qui fait face à la modestie, c'est la valeur de l'authenticité. De l'authenticité. Sorte de conscience, on va évidemment définir ces valeurs un peu plus tard. Voilà. Dans la troisième partie du cours, je vais en parler dans le chapitre 2, « L'homme comme être itinérant, gérer le désir de réussir sa vie ». Donc on va y revenir. Si vous voulez, ça c'est le versant éthique dans nos sociétés. Maintenant le problème de l'érosion, je voudrais mettre le doigt dessus, de notre discours ecclésial du salut. L'Église s'est engagée sur un double terrain. Elle est davantage écoutée, je dirais, sur le plan de l'éthique collective. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Donc la grande tradition depuis 1891, Rerum Novarum, c'est le début, je dirais, d'une doctrine, d'une pensée chrétienne sociale, voilà. Et qui devient aussi œcuménique, évidemment, au XXe siècle, jusqu'aux dernières prises de position par rapport à la question écologique, etc. Donc là, c'est un point extrêmement important. Donc ça, c'est le plan collectif. Mais l'éthique individuelle et l'éthique, l'avenir de l'éthique ici, dont je viens de parler, semble aller de pair avec une érosion du discours du salut. Alors comment comprendre ça? Je pense qu'il y a trois raisons, si vous voulez. Donc, première raison, le discours du salut chrétien suppose un Dieu qui pense à l'homme et en porte le souci. J'ai commencé par là, le psaume 8. Alors que nous vivons avec la fin des grands récits, une pluralité de mythes dans l'humanité, continuellement retraités, et finalement derrière tout ça, un agnosticisme de fond. J'avais déjà dit au début, c'est la grande difficulté de fond. Un Dieu qui s'intéresse à l'homme, voilà. Il n'y a pas de salut sans cela. Comment parler d'un salut sans intervenir, faire intervenir, entre guillemets, vous voyez, la foi en ce Dieu-là? Alors ensuite, deuxième raison de cette érosion publique, c'est la proposition chrétienne du salut qui suppose une articulation entre le versant individuel et collectif de l'existence, ainsi qu'un rapport à l'environnement terrestre et cosmique. Le salut, c'est pas uniquement une affaire du sujet individuel, c'est une affaire d'une collectivité, d'un groupe, d'une église, de l'humanité. Et évidemment, l'univers, la création est impliquée dans cette question de salut. Il s'agit de l'orientation même messianique de la création. Donc la proposition chrétienne suppose cette articulation. Or, ces trois pôles, largement désarticulés dans la situation actuelle de l'homme, sont en voie, je dirais, de recomposition. Ils sont désarticulés. Ils sont en voie de recomposition, sans parler de l'absence de Dieu, de ce jeu relationnel. Donc, vous rappelez tout de suite au début, quand j'ai parlé d'une ontologie relationnelle biblique, j'avais parlé de trois types de relations, le rapport à soi, le rapport à l'autre et dans la société, et le rapport à l'environnement cosmique, l'univers. Et c'est précisément ces trois pôles d'un jeu relationnel complexe qui sont en recomposition. Donc, si on veut y inscrire la relation par rapport à Dieu, coram Deo, voilà, il faut tenir compte de cette recomposition. Mais la difficulté est précisément à cet endroit-là. Et dernière raison, la recomposition des liens entre le sujet-corps, la collectivité et la nature atteint très profondément le « pour nous » et notre salut. Et là, il faut bien dire qu'il y a toujours encore un « pour nous » dans la société. Vous voyez, c'est cette notion très curieuse, libérale et néolibérale de l'État-providence. Et de cette attitude incroyable, vous voyez, où nous attendons tout, finalement, de cet état de providence. Donc, le versant collectif, le pour nous, et notre salut continue à exister, à être assuré par l'État. L'État de providence, évidemment, largement mis en difficulté, mais toutes les autres assureurs, jusqu'à l'assurance vie, dont on vous fait la pub dans le métro, vous voyez. Voilà le salut pour les gens. L'assurance vie, voyez, l'état de providence, voilà. Et le « j'ai droit à », le « j'ai droit à », voilà. Le salut est là pour les gens, collectif, voilà. Pour ce qui est de l'existence individuelle, le « pour moi », donc le « pour nous » dans le credo et dans les textes bibliques, et le « pour moi », je cite ici Galates 2.20, qui est le texte le plus radical, « je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi ». Voilà. « Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi ». Voilà. Ça, ça a disparu dans le narcissisme ambiant. Difficulté, la difficulté d'accepter d'être à l'image d'un autre. Vous voyez, maintenant, on peut le nommer comme ça. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de celui dont il n'a pas le droit de se faire une image. On va revenir à cette formule un peu commentée de l'exégèse, n'est-ce pas ? Et nous, à l'image du Christ. Personne ne pouvant vivre pour l'autre, cette quête interminable du soi, voilà, avec le stress d'être soi qui caractérise tant nos sociétés. Hein. Partez sur la rue de Sèvres, le carrefour, vous voyez courir les gens. Ah, c'est impressionnant de voir ça. Voyez, quand vous imaginez un peu dans la contemplation, voilà, chaque sujet, n'est-ce pas, hein, poursuit là sa route, n'est-ce pas. Évidemment, allez, toutes les justifications du monde possible de courir. Voilà, voilà, voilà. Le salut, c'est quoi là-dedans? Voilà. Conclusion. Donc, je viens de vous proposer dans ce chapitre deux analyses complémentaires des difficultés, n'oublions pas, c'était le titre, c'était pas encore une proposition positive, la difficile reconnaissance de la proposition chrétienne du salut par l'homme moderne et contemporain. Deux analyses. Et je pense qu'il n'y a pas de réflexion dogmatique et pastorale sérieuse sans aller au bout de ces difficultés. Donc il faut situer, et ça sera maintenant le chapitre suivant, le chapitre 3, ces difficultés dans une histoire de la culture que j'ai déjà évoquée. Donc, vous voyez, l'historicité de la vie humaine faite de vie et de logos, bios et logos. Et cela va nous conduire donc vers la terminologie maintenant technique, anthropologie. Anthropologie. Donc, je vais partir maintenant de ce qui a été présupposé dans le chapitre 2, la séparation culturelle entre une anthropologie profane et une anthropologie théologique radicalement particularisée dans nos cultures contemporaines. C'est le troisième chapitre. Avec une question qui va nous orienter. Comment est-on parvenu à concevoir que l'homme puisse devenir humain sans Dieu? Voilà. Alors, je vais partir d'un auteur qui mérite aujourd'hui lecture de nouveau, c'est Ludwig Feuerbach, 1804-1872. Avec son ouvrage que je vais vous commenter, « L'essence du christianisme » de 1841, vous avez une excellente édition française, Osier, une bonne traduction et surtout une remarquable introduction. Alors je vais commencer par là, pourquoi ? Parce que au fond, vous avez là d'une manière relativement claire l'argumentation, vous voyez, qui traverse le 19e et le 20e siècle jusqu'à nos jours. Il a des gens qui l'ont suivi, évidemment la grande triade Nietzsche, Freud, Marx, Freud. Luc Ferry, très proche de nous, l'homme-dieu ou le sens de la vie. Onfray, le prédicateur de Caen, voilà. Omniprésent à France Culture, voilà. Et Jean-Luc Nancy, très récent, 2013, remarquable, remarquable la déclosion, la déconstruction du christianisme. Donc voyez, vous avez là une sorte de filiation à partir de Feuerbach. Si vous avez bien compris le premier, alors le reste est plus complexe, souvent plus compliqué, mais je dirais la structure, la figure d'argumentation est grosso modo la mienne. La même, pardon. Oh là là, la même. Voilà, la même. Il y a des lapsus qui trahissent. Voilà, c'est grosso modo, je dirais, la même. Donc, on va je vais vous la proposer un peu en détail. Et je vous ai donné, évidemment, un document à la page 146-152. Vous avez un extrait important sur la notion de l'amour que je vous invite un peu à lire. Je ne vais pas le commenter en détail. Donc, il est, au fond, Feuerbach, le premier, qui est au point de départ de la scission entre une anthropologie théologique et une anthropologie profane. Je mets ça pour le moment entre guillemets, on précisera le terme. Voilà, aucune anthropologie ultérieure est pensable sans cette référence, c'est-à-dire une anthropologie profane qui se voit en Europe, dans la culture occidentale, même plus largement, comme héritière du christianisme. Alors, ça c'est la première partie du chapitre. On va regarder un peu le plan, la page 19. La lente constitution d'une anthropologie profane après Feuerbach, avec une figure centrale, Michel Foucault, et alors un certain nombre de questions, qui, notamment la question du corps, que j'avais déjà abordé, le sujet comme corps, et ensuite le point essentiel à la page 23, des modèles d'articulation entre anthropologie profane et anthropologie théologique. Comment le théologien peut-il se débrouiller dans ce nouveau paysage ? Alors, Feuerbach, donc le plan de l'ouvrage d'abord, il y a deux parties. L'essence authentique, vous voyez, c'est là où vient d'ailleurs le mot authentique, je préciserai ce terme, c'est-à-dire anthropologique, l'essence anthropologique de la religion. Donc là, vous présentez déjà la thèse, vous la présentez ici, c'est-à-dire au fond, de toute religion, il y a une anthropologie. Et ensuite vient la partie critique, seulement la deuxième partie, l'essence inauthentique, c'est-à-dire théologique de la religion. Quand la religion devient théologie, alors on est parti vers l'inauthentique. Alors, ça c'est le plan. Alors, le plan manifeste déjà, si vous voulez, une double visée. Donc, la critique de la réalité d'une transcendance religieuse. Alors, il annonce très clairement la couleur au point de départ, donc c'est une anthropologie athée qui est proposée. Comme d'ailleurs chez les successeurs, jusqu'à Jean-Luc Nancy, qui va nous dire, c'est-à-dire l'athéisme, c'est l'accomplissement du christianisme. Un athéisme, voilà. Donc critique d'une transcendance religieuse, et en même temps une critique de l'histoire religieuse de l'humanité, comme chemin authentique d'humanisation de l'homme. Au fond, l'histoire religieuse, vous voyez, c'est le soupçon contemporain, continuel, et de plus en plus, l'histoire religieuse de l'humanité conduit vers l'aliénation et vers la violence. Vers la violence. Donc, Feuerbach nous propose une anthropologie athée, mais humaniste. Mais humaniste. Un humanisme athée. Je vous ai mis ici le grand ouvrage du père de Lubac, 1946, qui est le premier à avoir repris cette histoire et donc s'est affronté à ça. Le titre est très beau, Le drame de l'humanisme athée. Et on peut tout de suite dire que Gaudium et Spes, à la suite de l'humanisme athée, du drame de l'humanisme athée, 1946, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, Gaudium et Spes est la réponse chrétienne, catholique, à l'humanisme athée. Nous verrons ça à la fin de la première partie du cours. Alors, cette visée humaniste, donc devenir humain sans Dieu, n'oublions pas ça, hein. Devenir humain sans Dieu, vouloir devenir humain avec Dieu, ça conduit vers l'aliénation et la violence. Devenir humain sans Dieu, voilà, cette visée humaniste s'exprime dans l'hésitation quant au titre de l'ouvrage. Il a beaucoup hésité, il le dit, Feuerbach. Premier titre, Gnotis auton, je l'ai mis en grec. Connais-toi toi-même, Socrate. Connais-toi toi-même. Contribution à la critique de la déraison pure. La déraison pure, le contraire de logos, voilà, ça c'est la religion. Et ensuite, il a pris un titre plus doux, si je puis dire, plus juste aussi, d'une certaine manière, par rapport à son intention, l'essence du christianisme. C'est le premier qui a fait un travail là-dessus. Après, ça vient un genre littéraire dans la théologie protestante libérale, comme on dit. Voilà. Alors, analysons un peu les choses. Voilà, cette sorte de tension. Alors, la première thèse, donc j'ai mis ça un peu sous forme de thèse, c'est l'essence de la religion, c'est l'homme. Une citation, l'homme est le début de la religion, l'homme est le point médian de la religion, l'homme est le terme de la religion. Structure tripartite, comme le credo. Évidemment, dans le credo, l'homme est le début du christianisme, l'homme est le médian, le point médian du christianisme, le Christ, et l'homme est le terme du christianisme, évidemment l'accomplissement. Vous voyez, vous avez ici, je dirais, une homologie structurelle, je dirais, parfaite. Alors, pourquoi essence du christianisme et non pas essence de la religion? Le christianisme, voilà, j'ai dit à cette première thèse, est la seule religion où le caractère humain de Dieu est poussé jusqu'au bout. C'est pour ça que Gauchet, qui reprend ici Feuerbach, va appeler le christianisme la religion de la sortie de la religion. La thèse de Gauchet, c'est exactement la même chose. Le christianisme est la seule religion où le caractère humain de Dieu est poussé jusqu'au bout. C'est le Christ, c'est-à-dire le devenir homme de Dieu. Vous voyez, on est au cœur même du credo, qui constitue ici le point de départ, le centre et l'attitude de l'aboutissement religieux. Voilà la première thèse. Et c'est pour ça que le titre a été choisi plutôt l'essence du christianisme. L'homme-Dieu, à savoir l'essence même de l'homme, telle que nous la propose la religion en son aboutissement chrétien, deuxième thèse, celle-ci est athée, cela est une projection de l'homme. Et apparaît ici pour la première fois cette notion qui fera prouesse ensuite dans toute la philosophie du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire l'idée de projection. Chez Marx, c'est tout à fait décisif. Chez Freud, voilà, les maîtres du soupçon. Voilà, la religion comme projection. L'homme s'invente une réalité supérieure, suprasensible. La nature de cet être est d'essence anthropologique. Vous voyez le mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure, de la métaphorisation, de l'analogie. Parler de manière humaine de Dieu avec le risque de la déconversion. Sa réalité, la réalité suprasensible de Dieu est extraite de la nature de l'homme qui donne à cette réalité une existence séparée et en fait un double de lui-même, Dieu comme le double de l'homme. Seul l'homme est en cause dans la religion. Et la dualité des mondes sensibles et suprasensibles n'est que la transposition métaphysique d'une scission de l'homme avec lui-même. Et vous voyez, apparaît déjà ici la notion d'aliénation en mettant le meilleur de lui-même hors de lui-même. L'homme s'aliène en mettant le meilleur de lui-même hors de lui-même, en le projetant en Dieu, l'homme s'aliène, scission de l'homme avec lui-même. D'où le deuxième titre, que vous comprenez maintenant, Gnotis auton, connais-toi toi-même, contribution à la critique de la déraison pure. Qu'est-ce que c'est la déraison pure? C'est la négation du logos en l'homme, par la scission de l'homme d'avec lui-même, et la projection de cet extrait du meilleur de lui-même en un autre, en Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, etc., etc. Voilà, deuxième thèse. Alors, troisième et dernière thèse, finalement, pourquoi Feuerbach renonce-t-il finalement à ce titre, ce premier titre, Gnoti Sauton, connais-toi toi-même, créant contribution à la critique de la déraison pure. Alors, le point est important. Parce que le lecteur, dit-il, ne peut accéder à ce but critique qu'à la fin du parcours. Donc, derrière l'ouvrage, il y a ce qu'on pourrait appeler un chemin d'initiation, un chemin pédagogique d'humanisation. On pourrait souscrire l'ensemble, comment devenir humain sans Dieu, en venant de la religion. Comment devenir humain sans Dieu, en venant de la religion, du christianisme. Le projet est donc d'écrire une anthropologie profane du christianisme, première partie, une anthropologie profane du christianisme, en partie des trois parties, credo, etc., etc. Donc au cœur du christianisme, il y a l'humanisation du divin. Et ensuite vient, et c'est de décrire, pardon, je l'ai mis même en italique, comme itinéraire de conversion ou comme itinéraire de maturation humaine. Donc en sortant de la religion chrétienne, et en récupérant, si je puis dire, l'héritage anthropologique du christianisme, voyez, on se met sur un chemin d'humanisation. Le christianisme et a fortiori les autres religions appartenant à l'enfance de l'humanité. Voilà, c'est ça l'idée, l'enfance de l'humanité. Que signifie alors maturité? Deux choses, comprendre le renversement ou l'aliénation religieuse de l'homme. Donc, voyez cette scission, expression naïve d'une scission de l'homme entre lui-même et son double, dont il est l'image. Et deuxièmement, maturation, renverser le renversement, et récupérer l'extériorité divine dans l'homme uni à lui-même. Voilà, si vous voulez, je dirais, le cœur de cette argumentation, bien sûr, qu'il faut critiquer, c'est évident. Hein, mais pour pouvoir critiquer, il faut la comprendre. Surtout, elle a une telle effectivité historique dans nos cultures occidentales. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu le temps, au moins une fois dans sa vie, et avoir démonté ce mécanisme et de l'avoir un peu compris. Voilà. Alors, deux points, trois même, je dirais, pour comprendre un peu plus maintenant. D'abord, il faut comprendre un peu l'aliénation et la déraison. En quoi consiste l'aliénation religieuse de l'anthropologie et, je dirais même, selon Feuerbach, nécessaire. Il y a comme une sorte de nécessité historique aux religions. Et ensuite, de là, il tire un projet humaniste d'éducation et de libération par l'explication des mécanismes d'aliénation, donc la page 19, le point B. Et donc c'est ça qui sera beaucoup affiné par Marx et Freud d'une autre manière. Et ensuite, voilà, l'importance de tout cela pour nous. Dernier point. Alors le point A. L'homme découvre ce qu'il est, et ça c'est la force, je dis, dit Feuerbach, des religions. Découvre ce qu'il est, son essence, par l'autre. Et il introduit ici un terme très important, le terme qui circule dans toutes nos cultures aujourd'hui, au moins en Occident, le terme genre. Évidemment. Alors, ce terme vient pour la première fois chez lui, et il sera évidemment, ça je vais vous montrer dans le point suivant, à partir de la page 19, sa mutation aujourd'hui, théorie ou, oui, étude. Du genre. Voilà. Donc la notion du genre vient chez lui. Genre signifie ici encore essence. Vous voyez, on est très proche de la notion nature humaine, essence de l'être humain. Et nous découvrons cela par l'autre. Alors qui est l'autre? Par le député. Vous voyez, on est déjà au XIXe siècle, le langage du député, donc démocratie parlementaire, le député, c'est-à-dire le représentant. Et au fond, je dirais, il y a deux représentants, Feuerbach dit ça, de l'être humain qui lui permet de découvrir ce qu'il est, c'est Adam, le député de l'humanité, genre, et le Christ, nouvel Adam, l'épître aux Romains, ouais. Le député. La figure du premier Adam est celle du second Adam. Voilà. Dans le chapitre 15, il développe ça. Cette découverte se fait pour la première fois dans le passage du paganisme au christianisme. C'est là où se fait, si vous voulez, le retour de l'être humain sur lui-même, face à cet autre qu'est Adam, premier Adam et le second Adam. Voilà. Découverte de lui-même. Le paganisme, qu'est-ce que c'est pour Feuerbach? Il se caractérise par la subordination de l'individu au genre. La subordination de l'individu au genre. L'individu est compris comme partie d'une totalité. Et on voit bien ça chez Cicéron, mais aussi chez Aristote, c'est la cité, chez les deux. Voilà, la totalité, raisonnable, le logos, le genre. Et l'individu ne trouve la plénitude de la félicité que dans cette totalité, en étant parfaitement intégré dans le tout. Voilà. Qu'il s'agisse de la polis aristotélicienne ou de la cité universelle des stoïciens, le logos comme âme du monde. Voilà. Donc c'est là où on retrouve la loi naturelle de Cicéron. Voilà. Pour cette raison, les anciens, dit Feuerbach, ignorent le principe de subjectivité qui implique l'isolement du sujet et son infinité. Vous voyez, le sujet, dans la tradition biblique, le sujet prophétique, Isaïe, Jérémie, l'apôtre, Jésus, etc., ne peuvent pas être réduits au genre. C'est à la fois un isolement individu et un infini qui se manifeste ici, un infini. Et donc c'est ça la mutation. Donc en regardant Adam et le nouvel Adam, le chrétien n'est plus affronté à un genre, voilà, mais un individu, un sujet, voilà. Donc la subordination de l'individu finit à la totalité du genre. Avant qu'on arrive à ce processus, je continue d'abord l'explicitation très importante maintenant du paganisme selon Feuerbach. La subordination donc de l'individu à la totalité de la polis ou de la cité du monde, à la totalité du genre, se vit à travers une double pulsion. Et voyez, c'est là où va apparaître ce qui va devenir plus tard la théorie du genre au sens contemporain du terme. Quelle est la première pulsion? La pulsion de l'amour, l'éros. L'éros. L'éros platonicien, pensez au mythe de Diotime dans Le Banquet. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez sur Google Diotime ou Le Banquet et vous regardez très rapidement. C'est un texte extraordinaire. Voilà, avec les différents discours. Et donc, le discours de le mythe de Diotime qui vient tout à fait à la fin, voyez, avec un mythe qui joue un énorme rôle, évidemment, dans les débats sur le genre, je dirais, aujourd'hui, et où vous avez cette idée refusée, évidemment, par les études du genre, de la complémentarité. Voilà. Mais on est devant un tout. On est devant un tout. Donc, c'est la première pulsion, la pulsion de l'amour qui implique la déficience des sujets. Le sujet, par définition, il n'existe pas encore au sens contemporain du terme. Par définition, déficient, parce qu'il est toujours renvoyé à un tout. Et la deuxième pulsion, c'est la pulsion de la culture. Donc, il faut la collaboration de tous grâce à la prise de conscience de la totalité, et c'est là où se situe le politique. Le politique. Voilà le monde païen. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la prise de conscience biblique, selon Feuerbach, et qui va donc introduire l'humanisation du divin? Dans le christianisme, on passe du rapport de subordination un rapport d'identification du genre et de l'individu. A. D'identification du genre et de l'individu. Ça, nous allons le voir plus tard, est évidemment hautement contestable, cette thèse. Mais il faut d'abord la comprendre. C'est la figure du Christ, le Logos. Voyez, je reviens, le Verbe fait chair. Le Logos étant concept générique, universel et infini, voilà, au sens grec hellénistique du terme. Voilà. Cette identification donc entre le genre et l'individu Christ conduit, selon Feuerbach, vers la dissolution de l'individu dans une multitude de genres, ce qui deviendra la magnifique expression alter Christus, c'est-à-dire chaque chrétien est un autre Christ. Et en disant que chaque chrétien, chaque croyant, chaque sujet croyant est un autre Christ, on dit bien quelque chose de ce que Feuerbach veut nous faire comprendre. Cette identification entre Christ et le sujet. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je l'avais déjà cité tout à l'heure, Galates 2:20. Voilà. Donc, identification. Mais il faut rediscuter ça, nous allons le voir. Donc, c'est la figure du Christ, le Logos devenu chair ou sensibilité, c'est-à-dire l'existence individuelle. Cette identification conduit vers la dissolution de l'individu dans une multitude de genres ou autres Christ. Le Christ a été le genre comme individu, ça c'est une formule de Feuerbach. Le chrétien sera à son tour l'individu comme genre, à savoir la réalisation du genre dans un individu, un autre Christ. Cette identification se réalise dans une transformation des deux pulsions fondamentales. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. On va arriver à la fin du parcours d'anthropologie à la grande question des états de vie. Mais là, elle est déjà, des états de vie. Si je prends la première pulsion de Feuerbach, de l'amour, c'est l'identification entre l'individu et le genre conduit à la transformation de la sexualité humaine par le caractère asexué du genre. L'individualité, parce que le logos est asexué, dit Feuerbach. Genre. Tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Ah, il faut absolument revenir à ça, évidemment. Et évidemment, notamment dans le contexte de notre débat actuel, ce que Feuerbach oublie, c'est une affirmation eschatologique liée au baptême, évidemment. Alors on verra ça. Mais voyez bien comment ici, l'identification entre l'individu que je suis et le genre Christ que je suis, fils, voilà, produit une mutation de la pulsion sexuelle, voilà. Ça, c'est clair. Toute la tradition chrétienne le dit à sa manière. Donc, c'est une question clé de l'anthropologie. Alors, ensuite, deuxième point, vous voyez, non, moi j'ai ajouté, tout de suite se pose la question de la virginité, qu'est-ce que c'est? Le célibat, les états de vie, le mariage, etc. Se pose ici, à cet endroit-là. Vient de sortir un ouvrage surprenant, je ne suis pas encore au bout de la lecture, de André Paul, ça vous dit peut-être quelque chose, l'exégète bibliste, L'Éros enchaîné. Voilà. Il reprend cette problématique. L'identification conduit toujours, selon Feuerbach, vers une négation ultime de la pulsion culturelle. Voilà, deuxième point à discuter, évidemment. Que veut dire ni juif ni grec? Bon, est-ce que ça veut dire une sorte de civilisation où les distinctions juives et grecques disparaissent ou est-ce qu'il faut le comprendre de manière eschatologique chez Paul? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, Feuerbach, disparition de la pulsion. Alors, en quoi consiste, juste 2 minutes pour terminer ce petit point, en quoi consiste donc finalement la déraison à dénoncer maintenant ce Feuerbach? Donc le paganisme, le christianisme, l'humanisation de Dieu. La réalité qu'on accorde au genre ou au concept et qui n'est rien d'autre qu'une projection imaginaire, un renversement de la réalité. Là, je vous renvoie au texte, je vous invite à le lire, annexe 3, voilà. C'est ça l'aliénation. La religion est le reflet d'un dysfonctionnement de l'homme en mal de lui-même, appelé péché. Elle exprime un présent malheureux qui se projette dans un imaginaire appelé foi pour échapper aux conditions du réel. Elle est aliénation de l'homme. Car le transcendant, en tant que résultat d'une scission de l'homme, vous voyez, je reprends un peu ce que j'ai déjà dit, avec lui-même ne peut prétendre accomplir l'homme. Il est au contraire sa perte dans un imaginaire irréel. Là se trouve la fausseté, voilà la thèse, et la contradiction de la religion avec la raison et la moralité, logos. Cette analyse est liée pour Feuerbach à l'émergence des sciences modernes. La religion et le christianisme dessinent la figure extrême de dépendance et d'hétéronomie. Donc, dépendance ou hétéronomie, c'est-à-dire la loi est en un autre, hétéros, oui, la loi est en un autre, en Dieu, hétéronomie de l'homme à la nature. L'homme dépendant de la nature. La loi divine n'est que l'intériorisation de l'impuissance de l'homme face à la nature qui le domine. Voilà. Ça, c'est la religion. Au fond, la religion, selon Feuerbach, gère cette impotence de l'être humain, immergé dans la nature, et lui permet d'émerger, de projeter en un autre ce qu'il a le plus propre, pour finalement sortir de cette désaliénation avec le monde moderne. Dès que l'homme apporte la preuve de sa capacité de dominer même partiellement les mécanismes de la nature, voilà, domine, traduction dans le Genèse, le tout-puissant divin paraît comme ce qu'il est, un palliatif. Un palliatif. Et du coup apparaît, comme ultime orientation de l'ouvrage, ce projet humaniste d'éducation et de libération, donc que j'ai développé brièvement dans le point B, et dans le, je dirais, la fine pointe, c'est au fond, je dirais, la disparition même de cette projection du genre en Dieu, et mais la relation d'amour entre les sujets, la relation d'amour entre les sujets. Vous voyez, dans le point B2, deuxième tiret, l'amour étant l'existence du divin en l'homme, non pas comme une présence générique et asexuée dans l'individu, mais comme présence dans l'individu, même rencontrant réellement l'autre individu dans sa réalité corporelle et sexuée, la formation, ce qu'il appelle la formation de l'homme total. Alors là, nous sommes à la fois proches, très proches de l'actualité, et en même temps, nous allons voir la prochaine fois comment, évidemment, l'actualité nous conduit encore ailleurs. Mais j'espère que je vous ai fait comprendre en quoi Feuerbach est véritablement une matrice culturelle, pour comprendre notre situation d'une anthropologie profane aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup et bonne semaine. Lundi prochain, on continue.